Et notre évangile du jour se trouve dans Matthieu, au chapitre 3, je dirais les 12 premiers versets. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père », car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des pierres à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres, tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son van à la main, il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Éternel, ta parole est notre lumière, éclaire-nous et éclaire nos chemins par ta lumière. Amen. Voilà, notre évangile du jour commence avec ces mots. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste qui proclame dans le désert de Judée, etc. En ces jours-là. Attention de bien comprendre, cette formule, ce n'est pas juste une banale petite formule de transition. Dans l'Ancien Testament, on retrouve souvent cette phrase dans la bouche des prophètes lorsqu'ils sont juste sur le point d'annoncer un grand jugement, peut-être pour le peuple, ou une grande victoire, une grande délivrance. En ces jours-là, c'est ce mot qui revient souvent. Ici, les jours dont va parler Matthieu sont les jours décisifs pour l'humanité. Il y a une urgence qui approche. Demain, il sera trop tard. C'est le jour J, c'est l'heure H qui est imminente, qui est là. Alors, replaçons-nous un instant par l'imagination dans cette région désertique sur les bords du rive du Jourdain. Toute l'histoire chrétienne commence par un cri poussé par Jean. Convertissez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Voilà donc l'urgence. C'est une bonne nouvelle. Dieu va enfin régner. Dieu va enfin prendre sa place de roi. Alors on est vraisemblablement à l'automne de l'an 27. Et nous, aujourd'hui, on a peut-être un peu de peine à imaginer ce que pouvait provoquer un tel cri dans ce contexte dans lequel il a été crié. Mais pour les gens de cette époque, en Israël, ça devait faire l'effet d'une bombe. C'est un fou qui parle. Évidemment, il est fou. Ou bien, si c'est vrai, alors toute l'attente fiévreuse d'Israël, qui est sur le point d'être comblée, est là, juste à portée de main. Le rejeton de la vieille souche de David va jaillir. Il va arriver, il va prendre sa place. Un rameau, une espérance folle, qui jugera les petits avec justice, il n'y aura plus de méchants, une paix universelle et définitive s'installera sur la terre, on l'a entendu, le loup habitera avec l'agneau, le lion et le bœuf brouteront ensemble, le nourrisson va s'amuser sur le nid du cobra et il ne se fera plus aucun mal, tout le monde connaîtra Dieu. C'est-à-dire qu'enfin tout le monde, ou le monde entier, aura compris ses intentions pour l'humanité, auront compris que ses intentions sont bonnes, pour l'humanité comme pour la nature, et saura recevoir à ce moment-là ses conseils. Alors voilà la joyeuse nouvelle, voilà l'évangile, la bonne nouvelle, Evangelion en grec et Bessora en hébreu. Voilà la bonne nouvelle que pendant 2 ans, Jésus va se mettre lui aussi à prêcher et à annoncer à son tour. C'est exactement le même message joyeux que va proclamer Jésus. Dieu est tout proche. Dieu est à portée de main. Dieu parmi les hommes, Dieu sur nos chemins, tout proche est son royaume. Et c'est là la prière d'Israël, à ce moment-là. C'est « Viens, Adonai, notre Dieu, que ton règne vienne. » On en a récupéré un petit bout d'ailleurs dans notre Père. Que l'amour vienne, que la paix vienne, que la justice vienne. Toutes ces valeurs profondes, tous ces biens auxquels toute l'humanité aspire. Ils sont là, dit Jean-Baptiste. Alors on comprend que cette bonne nouvelle bouscule, et bouscule un peu, bouscule beaucoup même ceux qui sont là, et ne puisse laisser personne vraiment indifférent. Mais attention, crie Jean-Baptiste, ce royaume, ne vous contentez pas de l'attendre tranquillement, de le désirer, de le souhaiter. Bâtissez ce royaume de Dieu. Travaillez-y. Allez, en route, soyez actifs, convertissez-vous, changez de regard, et c'est là tout le cri de Jean, mettez-vous en route. Ne vous contentez pas d'attendre. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du fleuve du Jourdain. Oui, Jérusalem, toute la région du Jourdain venait à lui. Vous voyez ce qui se passe? Ce désert est en train de se couvrir de foules, et même de plusieurs foules, on pourrait mettre le mot « foule » au pluriel. Et il revit. Ce désert est en train de se repeupler. Ce désert des bords du Jourdain devient comme un centre qui provoque un mouvement d'un peu partout, de la région urbaine de Jérusalem, au nord, et puis à l'est de ceux qui vivent le long du fleuve, ou dans les campagnes, dans les milieux plutôt campagnards. Et tout ça, c'est comme un réveil, un grand réveil qui fait rêver. Quand tous ces atomes qui nous lient les uns aux autres font le même rêve et le même voyage vers un même lieu d'attraction. Et dans un tel contexte, c'est aussi le désert du cœur qui se met soudain à vivre, à revivre dans l'humilité et la confession. Il ne suffit pas de désirer changer la société, même si c'est très bien, c'est une bonne intention en tout cas. Il faut aussi accepter et désirer changer soi-même. Et c'est par là que ça commence. Si on veut vraiment faire quelque chose, c'est par là que ça commence. Confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Là, le mot qui est utilisé pour baptiser signifie littéralement « immerger ». Dans Marc, au chapitre 7, le mot est même traduit par « lavage ». Le lavage des mains. Mais la signification, du coup, est claire. En se laissant immerger complètement par Jean, la personne reconnaissait publiquement ses péchés. Voilà un geste, en tout cas, qui parlait à cette époque. D'ailleurs, le mot « confesser » en grec, « exomologmenoi », donne le mot « homologuer » en français et lui prête sa signification « reconnaître » après vérification de la conformité à certaines normes. Confesser ses péchés, c'est reconnaître les normes de Dieu, reconnaître la distance qui m'en sépare encore et désirer réduire cette distance. On va le voir comme ça. Alors nous voilà dans le temps de l'Avent, et l'Avent ce n'est pas d'abord le temps de la course aux jouets, de la course aux cadeaux, même si c'est un peu ça quand même si c'est le temps... de cette agitation frénétique qui est devant nous. Mais c'est plutôt un temps où, normalement, il est spirituellement bon de se poser et de s'interroger sur soi-même, sur notre devenir, sur vers quoi on avance. C'est plutôt le temps de la décision à prendre. Dans la tradition biblique, se convertir, vous le savez, c'est faire un demi-tour, se retourner. Faire un demi-tour pour prendre la direction inverse de celle qu'on avait prise jusque-là. Alors le mot n'est plus très à la mode aujourd'hui, le mot conversion, on n'aime plus trop l'utiliser. De ce latin conversio, en fait ça vient du grec metanoia. Et peut-être on comprend mieux là, metanoia c'est un changement de mentalité. Meta, un changement de noia, mentalité, un changement de regard, un changement de cœur. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe plutôt à l'intérieur. Et c'est si caractéristique des prophètes, quand on le traduit alors en hébreu, c'est chouv, revenez, revenez, reviens. Moi j'entends la chèvre, Monsieur Seguin, l'histoire de Monsieur Seguin qui appelle sa chèvre, reviens, Blanchette, Blanquette, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est vraiment ça. Chouv, reviens. Alors avec cet avant de cette année 2022, est-ce que ce sera pour moi un temps de retour, un temps de conversion, de demi-tour, de renouveau, de changement dans ma vie, un changement de regard, un changement de regard sur moi, sur Dieu, sur le monde, sur ceux qui m'entourent, ou bien vais-je continuer ma petite vie, somme toute bien confortable, bien calé dans mon fauteuil à la maison, dans mes croyances bien installées, c'est tellement plus pratique et surtout ça entretient le confort. Et pour ça, c'est une bonne chose. Je vous laisse avec cette question. L'annonce de la bonne nouvelle du règne de Dieu tout proche, les foules de ce temps-là partaient à pied dans le désert et reconnaissaient leurs péchés. Juste, et nous, aujourd'hui, sommes-nous encore capables de reconnaître les nôtres ? Ou notre conscience ne serait-elle plus du tout confrontée au péché ? Ou j'ai pensé à d'autres théories, peut-être serait-on devenu aveugle chemin faisant, ou serait-on devenu saint chemin faisant ? Donc plus besoin de s'interroger par rapport à notre péché, si on serait trop pécheur ou quoi. Ou on serait peut-être devenu pur, dans le sens qu'on utilisait la semaine dernière, au culte dernier. Sommes-nous devenus des purs ? Et n'avons-nous plus à nous préoccuper de quelques péchés en nous ? Ou manquerions-nous juste peut-être de la lucidité la plus élémentaire pour avoir un regard éclairé sur nous-mêmes ? Allons-nous, pour préparer le chemin de Noël, accepter de reconnaître que nos chemins ont besoin d'être lavés, clarifiés, éclairés, avant de nous remettre en route ? Alors je conçois qu'un tel message n'est peut-être pas très populaire aujourd'hui dans l'Église, surtout dans la nôtre, mais c'est justement parce que cette communauté de Sceaux ne prend pas le péché comme le centre de sa prédication qu'elle peut du coup se laisser interpeller par ce texte du jour qui nous pose la question ce matin, est-ce que nous reconnaissons notre besoin de nous convertir, notre besoin de changer de mentalité ou de revenir vers nous-mêmes ? Ou bien serions-nous comme les pharisiens et les sadducéens de notre texte ? Car voyant les pharisiens et les sadducéens venir en grand nombre à ce baptême, Jean leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père » car je vous le déclare de ses pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Alors que quelque chose de tout neuf est en train de commencer pour toutes les foules qui sont plutôt lucides, eh bien certains au milieu ne bougent pas, ne se déplacent pas. Ils sont sécurisés dans leur croyance, dans leur foi. Ils sont faussement ancrés dans leur certitude qui les empêche du coup de bouger, de se déplacer, d'ouvrir les yeux. Mais pourquoi aurions-nous besoin de bouger ? Pourquoi aurions-nous besoin de nous déplacer, de nous convertir, de nous détourner de ce que nous croyons aujourd'hui ? Nous sommes enfants d'Abraham, nous sommes de la race élue. Voilà leur argument. Alors on le sait, j'en ai parlé cette année plusieurs fois, les pharisiens et les sadducéens, c'était ces deux grands groupes religieux et politiques qui étaient les plus influents, on va dire intellectuellement, dans le judaïsme du temps de Jésus, en tout cas à ce temps-là. Les pharisiens attachaient une grande importance à l'écriture, On le sait, à l'observance de la loi, à l'observance de ces myriades de petits rites hérités de la tradition, en oubliant bien souvent l'esprit de la lettre et en passant souvent à côté de l'essentiel des commandements de Dieu. Jésus va essayer de rectifier ça, c'est ça qu'il est venu réformer en son temps. Jésus n'est pas venu créer une nouvelle religion, hein, il n'est pas venu créer le christianisme. Les Sadducéens, par contre, eux, étaient plus politisés et ils ne s'intéressaient aux Écritures que de manière très générale. Ils ne croyaient pas trop aux merveilleux, aux choses surnaturelles de notre monde. Les miracles, les guérisons, les résurrections, tout ça, c'est pas trop leur truc. Pour eux, la foi se pense et se réfléchit. Quoi qu'il en soit, dans notre texte, l'un comme l'autre se croit libre. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont soumis à l'influence d'un autre, un mystérieux opposant au projet du règne de Dieu sur eux, quelqu'un de non identifié. Qui vous a démontré le chemin d'échapper à Dieu, le moyen d'échapper à Dieu? Cet adversaire qui ne se découvre pas face à face, mais qui agit incognito, Jean-Baptiste, à un moment donné, lui enlève son masque, c'est le serpent mythique qui, depuis Ève, suggère aux hommes qu'il n'y a aucun risque à manger le fruit défendu et à vivre en refusant de rechercher et d'écouter les conseils de Dieu. Jean leur dit, éviter la conversion, c'est se soumettre à celui-là. C'est se soumettre à cet esprit-là. Bon, je passe sur l'urgence qu'il nous faut à entendre, c'est dans le verset suivant, qui pourrait simplement se résumer par « dépêchez-vous ». Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Pourquoi nous dépêcher? En fait, de faire un choix. Parce que, nous dit Jean, « moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Alors c'est étrange, vous entendez bien ça, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Il est question ici de deux baptêmes. Et le contexte semble nettement indiquer que le baptême de feu est à distinguer du baptême du Saint-Esprit. Parce que c'est intéressant, immédiatement avant et juste après, Jean parle du jugement par le feu. Et le plus souvent, dans l'Écriture, le feu sert à symboliser le jugement, justement, à juger, à purifier. C'est pas une histoire d'amour, de zèle pour Dieu, tout ça, non. Le feu, c'est plutôt lié au jugement. Le baptême de feu, c'est un peu le double baptême du passage de la mer Rouge, un baptême de vie hein, pour les Israélites qui ont réussi à passer, qui ont réussi à traverser après la Pâque, et un baptême de mort pour les Égyptiens qui sont restés, qui ont été noyés sous la masse d'eau. C'est pourquoi, après toutes ces questions qui se posent à nous, tout naturellement avec le texte, je termine ce matin avec une suggestion pour nous tous. Malgré les temps qui nous séparent du temps, du moment où ces paroles ont résonné dans le désert, sur les rives du Jourdain, nous pourrions peut-être, sans risque, nous mettre avec sérieux à l'écoute de ces paroles de Jean-Baptiste, peut-être juste actualiser cet appel à la conversion pour nous aujourd'hui, non seulement pour aujourd'hui, mais aussi pour chaque jour. Et cette conversion, cette réforme en nous, oui, ça doit vraiment être une histoire de chaque jour, parce que vous savez que celui qui se couche le soir, c'est pas le même qui va se lever le lendemain matin, et celui qui se lève le matin n'est pas le même que celui qui va se coucher le soir. Nous changeons, et tous les jours nous changeons, et c'est pourquoi chaque jour nous avons aussi à changer de regard. Et comme l'Église réformée est toujours à réformer, eh bien notre cœur doit l'être en permanence aussi. Et cette conversion, cette réforme en nous, est un mouvement permanent, parce que Dieu aussi est en mouvement et qu'il évolue avec nous. Lui, il vous baptisera de l'Esprit Saint. Alors voilà, mes amis, où doit se placer l'espérance de celui qui écoute ces paroles ? Jean-Baptiste annonce l'Esprit parce que Dieu est Esprit et qu'il veut que notre esprit en nous l'écoute et reçoive ses conseils de vie, sa lumière pour nos vies, pour nos chemins. Cet Esprit Saint, c'est l'Emmanuel que nous attendons, mais c'est l'Emmanuel rendu parfait pour les hommes, car non seulement c'est Dieu avec nous, ce que veut dire Emmanuel, mais pour celui qui le lui demande, celui qui fait demi-tour, celui qui veut donner du sens à sa vie, c'est Dieu qui vient vivre en nous. Alors mes amis, que cette pensée nous travaille, nous accompagne alors que nous avançons doucement vers Noël, qui fête la victoire en nous de la lumière sur l'obscurité.